Chapitre 6 Le boui-boui. À n'en pas douter, le breton était un bizarre, un excentrique. Peut-être n'aimait-il pas. Quel âge avait-il? Les jours d'été au bois, il paraissait bien 25 ans, avec ses souliers, son pantalon et son gilet blanc, sa canne et sa fleur. Dans l'avant-scène de l'autre soir, ses cheveux gris lui en donnaient 60. Hier, il pouvait bien en avoir eu 200, et dans les moments ordinaires, avec ses cheveux teints, 40 ou 50. S'était-il moqué de moi? En tout cas, il m'avait fait reconduire dans ma voiture, et le cocher interrogé ne voulait se rappeler de rien. Il n'avait pas abusé de mes esprits. Quel être! Désormais, je ne voulais plus compter que sur moi-même. Je ferais du théâtre, je débuterais comme les autres. Et à moi de me faire remarquer. J'avais entendu parler d'un petit théâtre, assez loin, à Montmartre, où deux frères, les frères Electra, faisaient des expériences de spiritisme, de magie, avec en plus quelques attractions. Je résolus d'aller me présenter. Je pris un simple fiacre et me fis conduire là-haut. Ces messieurs m'accueillirent poliment et me demandèrent si je voulais passer une audition. Je dansais nu devant eux sur la petite scène. Il faisait sombre, et venant d'en haut, un filet de lumière bleue filtrait. Sans me presser, languissante, les yeux attachés à terre, je faisais mes meilleurs pas. La tête inclinée, j'observais les deux frères, tous deux noirs habillés, qui semblaient me regarder avec quelque intérêt. Bientôt, ils se concertèrent dans un coin, celui qui avait un binocle, tête baissée, l'autre les yeux et la moustache en l'air. Ils m'arrêtèrent et me conduirent à travers les encombrements du plateau dans une sorte de trou noir qui leur servait de cabinet de direction. Je fus engagée. Oh, je ne veux pas me rappeler les débats pour les appointements. Les répétitions traînèrent un peu. Je devais pseudo-hypnotiser, mimer sur la scène, d'après un poème de M. Stick de Trèfle sur lequel M. Jacques Levert avait écrit une délicieuse musique. Le soir de la première eut enfin lieu. N'aurais-je crainte que l'on m'accuse de coquetterie? Je dirais que je n'en eus pas le moindre trac, pas le moindre. La première alla bien. Il y avait au moins 3 habits noirs dans les loges et vaguement, dans l'éblouissement de la rampe, il me sembla en reconnaître un. J'entrevis des bâillements qui, de la scène, me parurent énormes. 2 ou 3 bouquets dans le coin qui me servait de loge, dont un tout d'hortensia bleu, me firent plaisir. Je n'eus guère notion de ce que je fis ce soir-là. La seconde représentation fut moins heureuse et les suivantes pitoyables. Aussi, mes camarades en profitèrent-ils pour m'accabler de consolations exagérées et de parti pris qui me faisaient plus souffrir encore que leur dédain. Jusqu'au machiniste qui, à l'abri derrière les portants, ne se gênait point de rire. Je n'osais me plaindre. Piteusement, les électras me regardaient, mais sans colère. Le public allait jusqu'à jeter des pelures d'orange sur la scène. Ils ne m'adressaient jamais un mot, et je sentais qu'eux comprenaient ma valeur. La vérité était que là n'était pas ma place. De ce moment, une sympathie irrésistible se dégagea de mon être pour les frères Electra. Plus tard, cette sympathie ne s'est jamais démentie. Un soir, j'eus la curiosité de regarder par un trou de la toile. Je voulais voir ce public hostile qui tout à l'heure allait m'accabler. Au premier rang se prélassait, entre un petit garçon et un plus petit mari, une grosse dame enfermant dans un corsage crème noué d'une lavalière bleu marine et d'une ceinture bleu ciel, une masse débordante de graisse en nichon. Entre côtes, bajoues et chair qui retombaient sur 2 montagnes de cuisses recouvertes d'une robe noire et que terminaient des souliers gargantuesques et vernis. Autour étaient disposés des ouvriers, des calicots habillés prétentieusement et lançant des coups d'œil aux quelques cocottes sales et éparses, plus sales encore que la salle. Au fond, dans une loge, il me sembla tout à coup revoir ce plastron blanc d'habit noir qu'il m'avait semblé reconnaître le soir de la première. Collant mon œil à la toile malgré le machiniste qui me tirait par la robe, j'essayais de voir. Autant le machiniste que l'éclat de la rampe qu'on venait d'allumer et le brouhaha du public m'empêchèrent même d'apercevoir à nouveau. On leva le rideau. Après les quelques exercices préliminaires, numéro fade, ce fut mon tour. Ma vedette avait considérablement diminué. Quant à mon assurance, elle me faisait presque complètement défaut. J'avalai une tasse de thé à laquelle je trouvais un goût singulier. Au moment d'entrer en scène, je fus prise de cette torpeur étrange autrefois ressentie. Mes pas se commandaient seuls. Entendant à peine la musique, j'avançais en dansant, comme soulevée de terre. Les plis de mon voile flottaient comme des feux follets suivant une fée, et mes cheveux légèrement dénoués voltigeaient délicieusement. Des bravos m'accueillirent. Encouragée, je commençai à reprendre mes sens quand une véritable tempête de sifflets vint glacer mon sang dans mes veines. Décidément, c'était une cabale. Il suffisait de quelques imbéciles pour entraîner une foule, naturellement aimante de chahuts. Je voulus continuer. Les sifflets s'étaient tus et voici les quelques exclamations entendues, tandis que je continuais à esquisser mes pas. « La môme la bringue !» Elle a pas volé son nom. Catron, je t'emmène. À la campagne. Tu vas te casser quelque chose. Elle tourne déjà de l'œil. Tourne les talons, ça vaudra mieux. Elle vient de faire pipi. On se leva, on se bouscula. La pluie de projectiles accompagna la pluie de quolibets. Les lustres dansaient, les balcons tournaient devant moi, et tout à coup je glissais sur une maudite pelure d'orange et je tombais. La torpeur m'envahissait de plus en plus. Les yeux angoissés, la gorge étranglée, j'essayais de crier « Grâce !» Désespérément, je regardais les machinistes qui ne baissaient point le rideau, amusés, lâches. Lâche aussi cette foule dont les bras terribles me menaçaient. J'étais acculé, sans défense. Tout à coup, faisant un effort pour me relever, je vis avec effroi une tête énorme emplir la salle. C'était la tête de Le Breton, immense, le cou à terre, le crâne à la voûte, avec ses lèvres rouges et ses cheveux teints, son rictus fantastique et son menton gigantesque. Il sifflait, le monstre, et ses yeux lançaient des flammes méchantes.